À l'océan?
I hope for your help to explore and protect the wild ocean in ways that will restore the health.
Les destructeurs de l'océan peuvent commencer à trembler. La puissance citoyenne est en chemin.
Health to the ocean means health for us.
Nous sommes la détermination, nous sommes le nombre et nous sommes inépuisables. Aux amoureux de l'océan et aux défenseurs du climat, de la justice et d'un vivre ensemble joyeux et réinventé. Le combat ne fait que commencer. La
Bienvenue dans À l'océan, l'émission qui donne des nouvelles de nos océans, nos abysses, nos mers, nos littoraux, bref, de nos milieux marins et des merveilleuses créatures qui s'y trouvent. Mais aussi des menaces et des destructions qui pèsent sur ces écosystèmes. Pas de panique, je vous donne des petits outils pour lutter en faveur des océans. Je m'appelle Clotilde et je suis passionnée d'écologie marine. Je vous invite à mettre vos palmes, votre tuba et plongeons ensemble à la découverte de notre planète bleue.
Ça continue encore et encore et ça n'est pas terminé, cette chaleur inédite. D'ailleurs, hier, ce fut le jour le plus chaud jamais enregistré depuis que l'on fait des relevés à l'échelle nationale pour un mois de mai.
Je crois que tout le monde en France l'a senti, ce mois de mai 2026, nous avons eu une canicule. Je le répète, pour qu'on puisse tous et toutes prendre en compte la gravité du moment, nous avons eu une canicule au mois de mai. Pendant le printemps, quoi. Des centaines de records de chaleur ont été battus partout en France. Pour ceux et celles qui pensaient ne pas avoir à subir les conséquences du réchauffement climatique, ou qui doutaient encore de son existence, cette canicule au mois de mai a le mérite de mettre les points sur les i. Alors, canicule terrestre, je l'ai dit, mais saviez-vous qu'il existe aussi des canicules marines? Et que sous l'eau, les poissons, éponges, mammifères, coquillages et tous les êtres vivants marins, bah, ils n'ont pas la clim et ils peuvent pas aérer la nuit. Qu'est-ce qu'une canicule marine? C'est lorsque la température de la surface de l'eau est extrêmement chaude et dépasse les normales de saison, et ce, pendant plus de 5 jours d'affilée. Ce phénomène est associé à une météo stable avec peu de vent, un ciel dégagé et une pression atmosphérique élevée. Il n'y a pas de brassage des couches d'eau. Les couches d'eau supérieures se réchauffent, tandis que les couches d'eau profondes plus froides ne remontent pas. On assiste alors à une stratification de l'eau, avec des couches qui se réchauffent plus on progresse en profondeur. Lors d'épisodes de canicule marine en Méditerranée, il a été relevé des zones de la colonne d'eau, alors qu'habituellement elles sont à 13-14 degrés, à plus de 26 degrés. Une des caractéristiques des canicules marines, c'est leur durée. Elles peuvent durer des semaines, des mois, voire des années, et s'étendre sur toute la colonne d'eau atteignant de grandes profondeurs. En 2017, au large de l'Alaska, une vague de chaleur a été mesurée pendant 3 ans, jusqu'à 1000 mètres de profondeur, et qui a perduré malgré un retour à la normale des températures en surface. L'année dernière, des pics à plus de 30 degrés ont été mesurés dans la Méditerranée. La mer Méditerranée est un hotspot, c'est le cas de le dire, du réchauffement climatique. Ses eaux se réchauffent 20 fois plus vite que le reste des mers et océans. Cette accélération est en partie due à sa configuration en mer quasiment fermée, avec seulement 2 ouvertures au niveau de Gibraltar et du canal de Suez. Depuis 2022, la mer Méditerranée est dans un état quasi permanent d'anomalie thermique. Ces canicules marines sont souvent associées à de véritables incendies sous-marins. Les espèces pélagiques, qui peuvent donc nager dans le Grand Bleu, vont pouvoir remonter vers le nord et fuir ces incendies, ces eaux brûlantes pour eux. Mais quid de toutes les espèces benthiques qui vivent au sol et les espèces fixées qui, elles, ne peuvent pas bouger? En 2022, lors d'une canicule marine pour les gorgones rouges, vous savez, ce corail est lancé comme un arbuste rouge, eh bien pour elles, c'est 90% de leur population qui ont été décimées. Toutes les espèces fixées, comme les éponges, les algues, les coraux, sont cuits dans ces eaux trop chaudes. Et comme pour un feu de forêt, quand celle-ci brûle, ce n'est pas seulement les végétaux que l'on perd, mais aussi les insectes, les petits mammifères et les oiseaux. Eh bien, c'est la même chose dans les milieux marins. On perd alors les mollusques, les coquillages, les petits poissons, les crustacés. Et puis, plus les eaux sont chaudes, moins l'oxygène arrive à se dissoudre dans l'eau. Donc, en plus de crever de chaud, toute la faune et la flore marine étouffent par manque d'oxygène. Et non, ce n'est pas fini. En plus des canicules marines qui sont ponctuelles et limitées à une zone géographique, les eaux du globe se réchauffent. Les océans et les mers ont absorbé depuis les années 70 90% de la chaleur accumulée sur Terre à cause du réchauffement climatique. Les conséquences du réchauffement de ces eaux sont multiples. Je l'ai dit tout à l'heure, les poissons qui le peuvent se déplacent vers le nord pour trouver des eaux plus froides. C'est le cas par exemple des barracudas, qui vivaient le long des côtes du Maghreb au sud de la Méditerranée et qu'on retrouve à présent partout le long de nos côtes. C'est aussi le cas de poissons plus exotiques provenant de la mer Rouge, comme le poisson lapin ou encore le poisson lièvre. Ce sont des espèces issues de la migration lepsienne, en référence à Ferdinand Lepse, concepteur du canal de Suez en 1870. Donc ça signifie que nos poissons lapins et lièvres sont passés par le canal de Suez pour atteindre la Méditerranée. Ces deux espèces exotiques sont considérées comme invasives. Le poisson lapin est un brouteur compulsif de Posidonie, cette plante à fleurs marines qui est le poumon de la Méditerranée. Il entre alors en concurrence avec l'espèce locale qui est la saupe. Vous pouvez les voir, les saupes, en banc, juste en mettant la tête sous l'eau. Ils sont argentés avec des grandes lignes jaunes. Le poisson lapin est vorace et possède un véritable impact sur la Posidonie. Le déséquilibre est un peu comme si vous passiez d'une chèvre dans un pré à trois chèvres dans le même pré. Eh bien, la végétation ne peut pas suivre. Le poisson lièvre, lui, est carnassier et figure sur la liste noire des espèces envahissantes du milieu marin de la Méditerranée de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Il se nourrit de crustacés et d'espèces benthiques qui vivent près du sol. En plus de ravager les populations et de créer un véritable déséquilibre dans la chaîne alimentaire, ce poisson produit de la tétrodotoxine, une neurotoxine qui peut s'avérer mortelle pour les êtres humains, le rendant impropre à la consommation. Ainsi, avec le réchauffement des eaux du globe et notamment celle de la mer Méditerranée, plusieurs poissons tropicaux peuvent s'installer dans ces eaux, déréglant complètement l'écosystème déjà en place. On parle alors de phénomène de tropicalisation de la mer Méditerranée. Alors j'entends déjà certains me dire « Bah super, si on a les mêmes poissons que sous les tropiques, plus besoin d'aller là-bas, à quand les poissons clowns au large de Marseille ?» Mais ce n'est pas si simple. Je l'ai dit, avec l'augmentation de la température de l'eau de mer, et en plus avec les canicules marines, les espèces fixées sont décimées. Or, ce sont des espèces dites ingénieurs. C'est grâce à ces espèces fixées, que sont les coraux, les éponges, les algues coralligènes et autres, que se construisent des lieux de vie propices aux autres espèces de poissons et qui façonnent les fonds marins. Donc si elles n'y sont plus, il n'y aura pas de poissons clowns non plus. Puis avec une mer brûlante, vidée de ses poissons et végétaux originels, c'est toute la vie des populations autour qui dépendent de la Méditerranée qui s'effondre.
Ah, c'est pas faux.
On l'a déjà vu lors des épisodes précédents, les mers et les océans absorbent une partie des gaz à effet de serre que nous émettons, notamment le CO2. Or, plus les eaux sont chaudes, moins elles peuvent absorber du CO2. Donc, il y a plus de gaz à effet de serre, et donc il fait plus chaud, et ainsi de suite. L'augmentation de la température des mers et océans a aussi un impact sur le climat. Avec la chaleur, il y a une plus forte évaporation de l'eau, qui s'accumule dans les nuages, créant des masses d'air chaude qui vont ensuite provoquer des orages et tempêtes importantes dans les terres. Vu qu'on aborde le sujet des relations entre température de l'eau et météo, je dois vous parler du phénomène El Niño. Alors, El Niño, c'est quoi ? C'est une variation naturelle du climat due à des modifications de la température de l'eau dans le Pacifique équatorial. Cela crée des modifications de circulation des masses atmosphériques, pouvant provoquer des événements météorologiques extrêmes sur certaines parties du globe. Le phénomène El Niño se reproduit avec une périodicité de 2 à 7 ans environ et c'est un phénomène naturel qui s'inscrit dans la variabilité interne de notre climat. C'est le plus gros changement ou variation naturelle de notre Terre. Il se caractérise par un réchauffement des eaux du Pacifique au niveau de l'équateur, au large du Pérou. Cela va entraîner une modification du cycle de l'eau, notamment de son évaporation. Du coup, il va y avoir des variations atmosphériques, comme l'augmentation de fortes pluies et de vents. El Niño s'étend de mi-avril jusqu'à novembre-décembre, d'où son nom El Niño, qui fait référence à l'enfant Jésus de la religion chrétienne, qui arrive en fin d'année. Ce phénomène a été nommé ainsi par des pêcheurs péruviens qui ont été les premiers à remarquer le réchauffement des eaux du Pacifique qui rendait la pêche moins fructueuse. El Niño fait l'objet d'études scientifiques depuis les années 90 qui ont montré qu'il influence les pluies diluviennes ou les sécheresses dans d'autres régions du globe, modifiant ainsi le cycle des saisons de certaines régions du monde. Ce qui a un impact sur les rendements agricoles, les ressources en eau et donc la sécurité alimentaire des populations. Il est fort probable d'avoir un El Niño cette année, mais on ne sait pas encore quelle sera son intensité. Donc, il va faire chaud, très chaud, que ce soit sur Terre ou dans les mers et les océans. Vu qu'El Niño est un phénomène naturel qui accentue les effets du changement climatique, à nous d'agir sur les causes du réchauffement climatique. Alors oui, il y a des gestes individuels comme réduire sa consommation de viande ou encore ses trajets en avion pour réduire les gaz à effet de serre. Mais ça ne suffira pas. Il faut exiger des changements politiques et demander des comptes auprès des entreprises polluantes. On pourrait par exemple demander réparation auprès de Total qui savait depuis les années 70 l'impact de l'utilisation des énergies fossiles sur le climat. Dans son propre journal interne d'entreprise Total Information, il y est indiqué le lien entre l'utilisation accrue des énergies fossiles et le réchauffement climatique, avec des prédictions quasi prémonitoires. Il y était noté que la concentration de CO2 atmosphérique pourrait atteindre les 400 parties par million en 2010. En réalité, on a atteint 390 parties par million. Plutôt pas mal comme prédiction. Au lieu d'alerter les politiques, de prendre au sérieux ces prévisions et les conséquences prévues, que nous subissons actuellement, je rappelle qu'on vient d'avoir une canicule au mois de mai. Total a préféré entretenir la politique du doute, affirmant qu'il n'y avait pas de certitude entre activité humaine et changement climatique, tout en continuant à investir dans les usines à charbon et autres projets pétroliers. Dans le premier trimestre de cette année 2026, en ce contexte économique difficile, Total a fait presque 6 milliards de bénéfices. Alors peut-être on pourrait exiger que cet argent soit réinvesti pour la préservation de notre environnement, notre lieu de vie, celui de nos enfants, et aussi de tous les êtres vivants de la planète qui, comme nous, n'ont pas de planète B. Il est temps que Total et les grosses entreprises des énergies fossiles aux super profits assument leurs responsabilités écologiques. Que l'on fasse front ensemble, que la société civile dise que ça suffit, et que nos représentants politiques suivent et agissent. Il y a déjà des actions en justice qui ont été mises en place, notamment par l'association Notre Affaire à Tous, qui utilise le droit comme levier stratégique de lutte contre la triple crise environnementale que sont niveau climat, biodiversité et pollution. Je vous mets le lien de leurs actions contre Total pour les soutenir et les rejoindre dans le descriptif de l'épisode. Voilà, cet épisode d'Allocéan se termine. Pour en savoir plus sur le scandale de Total qui a préféré fabriquer l'inconscience climatique et l'usine du doute depuis 50 ans, je vous conseille le dossier de la revue dessinée Total Savait, ainsi que l'article reporter sur le sujet. Évidemment, je vous mets tout ça dans le descriptif de l'épisode. Allez, je vous laisse avec Planète Boom Boom et leur musique Sacram, et je vous fais des bisous salés bien sûr. Travailler plus, pour consommer plus, pour exploiter plus, pour polluer plus, pour galérer plus, pour travailler plus, pour travailler plus, pour travailler plus. Stop ! Ouais, c'est vrai, c'est trop fun de bosser quand tu fais 50 degrés, de tout faire sur les chantiers, de se buter pour le PIB, de tout carboniser pour enrichir les planqués, parce que c'est notre projet. Système crépusculaire, ambiance caniculaire, je veux voir toutes les mains en l'air.
Armement du béton, c'est le vent frais, la rébellion.
Climat révolution.
Valter.